Écoute d'économie, Jocelyne Moussaou.
Bonsoir, la semaine s'achève, mais d'abord la température économique du pays. L'équipe est au complet et c'est Bérifonca Luchaka qui nous fournit les nouvelles.
Il y a confusion à Lubumbashi sur le paiement des factures SNEL du mois d'octobre. Paulin Munanga nous en parle dans 2 minutes. Et puis, la réforme en cours dans les entreprises publiques de la RDC est-elle un espoir pour le pays et les institutions elles-mêmes? Le syndicat des travailleurs de la Régie des Eaux a réfléchi aujourd'hui sur la question et c'est Daniel Tamindoni qui nous fait le point dans la seconde partie de cette émission.
La seconde partie de cette émission reçoit Sigrid Anna Johnson, ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, qui s'expliquera sur le veto de son pays au Club de Paris. La réunion des experts du Rwanda, du Burundi ainsi que de la RDC va se clôturer dans les heures qui suivent à Goma.
Ouverte hier jeudi dans le bâtiment de la Banque de développement des États des Grands Lacs, cette réunion avait pour objectif d'étudier les possibilités et les moyens à mettre en place pour relancer les activités de la Banque de développement des États des Grands Lacs BDGL, suspendue depuis 1989. Il est prévu qu'à l'issue de cette rencontre, que les experts adoptent les résolutions et recommandations pour la relance des activités de la BDGL ainsi que la signature d'un acte d'engagement. On prit part à cette rencontre de 2 jours, les ministres rwandais et burundais des Finances et le ministre congolais de l'Industrie qui a représenté son collègue des Finances en Péchi. D'autres personnalités ont été présentes, notamment les délégués de la Belgique, de la Banque africaine de développement ainsi que d'autres actionnaires.
La Banque mondiale initie un projet d'agriculture d'une valeur de 120 millions de dollars américains.
C'est l'annonce faite hier par le responsable du projet d'appui à la réhabilitation du secteur agricole. Nicolas Awisusi affirme que c'est le plus grand projet de la Banque mondiale depuis la reprise de la coopération avec la RDC.
Un bateau de la société Sodefort provenant d'un campement Lisenge Yangamba au Bandundu a fait naufrage.
Il revenait d'un chantier d'exploitation forestière de cette société pour Nyoki, lieu de la direction d'exploitation. Les autorités du district affirment qu'il transportait à son bord des grumes, une citerne et plusieurs passagers. Ces autorités précisent que des passagers à bord ont perdu toutes leurs marchandises et d'autres biens de valeur, signalant que 3 personnes sont mortes, plus de 250 survivants et plusieurs personnes disparues.
Au Bas-Congo, il y a eu vol de 30 000 dollars américains à l'INERA.
L'INERA, c'est l'Institut National des Recherches Agronomiques et le vol a été perpétré dans la nuit d'hier à aujourd'hui au centre de recherche de cet institut en Bandangungu, cité situé à environ 210 km à l'est de Matadi. Selon le directeur de ce centre, ce montant était destiné à la paye des agents et à la réalisation des projets, de certains projets. Pour commettre cet acte, présume Jean-Léopold Niafuntila, les assaillants ont drogué les 2 gardiens commis à la sécurité et des enquêtes sont en cours à Sylvie.
Les responsables de la compagnie sucrière de Kwilungongo réagissent aux allégations des journaliers de la sucrière.
Hier, sur nos ondes, ils affirmaient recevoir 450 francs congolais pour une tâche journalière. Et lui, Mwende, directeur du personnel de la sucrière de Kwilungongo, déclare que son entreprise paye à ses journaliers 1500 francs congolais par jour, mais ses journaliers réclament un peu plus. Ce responsable de la sucrière affirme que Kwilungongo a proposé 1680 francs congolais par jour, montant que les journaliers ont refusé, raison pour laquelle la sucrière a eu recours aux ouvriers agricoles qui, eux, ont un contrat à Sylvie.
Un bateau transportant des produits manufacturés en provenance de Kinshasa vient d'accoster à Lusambo.
Nous sommes dans cette localité située à près de 230 km au nord-est de Mbujimayi. Le chef de bureau de transport et communication de ce territoire affirme que le bateau a amené les produits manufacturés et de première nécessité destinés aux villes de Kananga et Mbujimayi. Il s'agit notamment des savons, sucre, ciment et des boîtes de conserve. Il faut noter que ce bateau est affrété par la compagnie Beltec.
La nouvelle économique au bout du fil.
Le coup de fil de ce soir à Lubumbashi où les abonnés de la Société Nationale d'Électricité ne savent plus à qui prêter l'oreille à propos de la facturation du mois d'octobre, facture dont les prix ont été multipliés par 3 et même par 4 par rapport à celle de mois précédent. Pour la Munanga, vous avez fait un tour à la direction de la SNEL et même dans quelques agences. Que se passe-t-il exactement?
Jocelyne, nous avons sillonné les agences de la SNEL à Lubumbashi. Certaines exigent que les abonnés payent la totalité de leurs factures du mois d'octobre. factures dont les prix ont été majorés, comme vous venez de le dire. Des factures dont les prix ont été soit multipliés par 3 ou même par 4. Et quelques agences aussi, contrairement à d'autres, suivent la dernière décision de la direction nationale de l'ESNEL, celle de surseoir un peu l'application du deuxième palier de la révision des prix de l'électricité.
Et comment ces agences justifient-elles leur attitude, car elles créent une confusion?
Un des responsables d'une agence visitée nous a expliqué que le gouvernement et la direction générale ont pris une décision pratiquement politique qui n'a pas été motivée par un document administratif.
Et voilà pourquoi cette attitude, mais quelle est la position de la direction provinciale de la SNEL Katanga?
Le directeur provincial de l'ESNEL Katanga persiste et signe. L'ESNEL, au niveau provincial, applique à la loupe la décision gouvernementale. S'il y a des responsables des agences qui exigent aux abonnés de payer la totalité des factures du mois d'octobre, ils seront arrêtés car ils le font pour leur propre intérêt, a conclu le directeur provincial de l'ESNEL Katanga.
Nous espérons que la situation va se clarifier. Merci Paulin Munanga pour cette information. Et bonne soirée à Lubumbashi.
Bonsoir à Jocelyne.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Lutchaka.
Berry, les Émirats Arabes Unis sont menacés de tomber en faillite.
Le rééchelonnement de la dette de deux de ces groupes par le conglomérat Dubai World et sa filiale immobilière Nakel jusqu'au 30 mai 2010 au moins a été amplifié depuis le mercredi dernier. La dette de Dubai World, estimée à 59 milliards de dollars, représente l'essentiel de celle de l'Émirat, évaluée entre 80 milliards et 90 milliards de dollars. Sa filiale Nakel, promotrice de la construction des célèbres îles artificielles en forme de palmier, est incapable de rembourser d'ici au 14 décembre une obligation islamique d'un montant de 3,5 milliards de dollars, une émission de 1,2 milliard de dollars de Limitless. Une autre filiale de promotion immobilière de Dubai World arrive aussi à échéance au printemps.
Et il faut signaler que les matières premières subissent le peur lié à Dubaï et qu'aujourd'hui le prix du pétrole a chuté de plus de 5%. Merci beaucoup pour ces informations, Berry. Et voici la deuxième partie de Écho d'économie.
Écho reportage.
La réforme en cours dans les entreprises publiques de la RDC est-elle un espoir pour les pays et même ses institutions? Le président de l'intersyndicale et secrétaire général du syndicat de travailleurs de la Régie des Eaux a appelé aujourd'hui les siens à s'approprier le processus, notamment en ce qui concerne le contrat de gestion, les investissements et les chronogrammes irrelatifs. Éco-reportage, Daniel Tambizoni.
La capacité de production est inerte tout simplement parce que nous n'arrivons pas à nous approvisionner en produits pétroliers.
À 70 ans d'existence, aujourd'hui, la Régie des Eaux traverse depuis 15 ans une situation pas alléchante. D'une desserte en eau potable dans l'ordre de 68% sur les 70 attendus au cours des années 90, les services de la régie ne représentent aujourd'hui que 22% en ville et 35% sur le total de la population. Sur 11,5 millions par exemple de Congolais qui ont accès à l'eau, il en existe beaucoup qui se servent par solidarité en allant puiser chez les voisins. Dans la panoplie des causes de ce désastre, notons le manque de financement, l'autonomie limitée de la régie des eaux vis-à-vis de l'État propriétaire jusqu'il y a peu, l'insolvabilité de certains clients parmi lesquels l'État lui-même et des hauts fonctionnaires de l'État, la baisse de la production et l'augmentation du personnel. Jean Bosco Moka, président de l'intersyndicale et secrétaire général du syndicat national des agents de la Régie des Eaux, répond à sa propre question. Est-ce que la réforme à la Régie des Eaux est un espoir pour la Régie des Eaux et pour la RDC dans le domaine de l'eau?
Cette réforme, c'est un espoir pour la RDC et pour la Régie des Eaux, mais néanmoins à la seule condition que les partenaires au développement respectent leurs engagements. à la régie des eaux, nous sommes là, nous travaillons. Si la régie des eaux a des moyens, la régie des eaux est capable de se transformer.
Cette réforme à la régie des eaux est soutenue par le programme d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Après les études de faisabilité, il a fait des propositions de sortie de crise, parmi lesquelles améliorer la facturation de la régie des eaux, accroître durablement la productivité de la régie et enfin fournir l'eau à hauteur de 70% à l'horizon 2013. Bonkunku Leoda Namba Djelo est coordonnateur de la cellule d'exécution des programmes. Il donne des prévisions sur l'amélioration de la productivité prochaine.
Grâce au programme, on aura quelques 33 millions de plus. Alors, le taux de décès va passer en 2013 à 55% avec le programme, tandis que s'il n'y avait pas de programme, il serait seulement de 45%. Et en 2020, il pourra atteindre 72%, alors que sans programme, il ne serait que de 45%.
Le PMU prend en compte, disons-le, 3 des 6 sites identifiés, à savoir Kinshasa, Matadi et Lubumbashi, avec l'espoir de l'étendre dans d'autres villes telles que Kisangani et Likasi.
L'entretien de ce soir.
Nous recevons ce soir Sigrid Anna Johnson, ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Madame l'ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir.
Parce que le Canada a bloqué un rééchelonnement par le Club de Paris de la dette extérieure de la RDC?
Non, pas du tout. Le Canada a demandé qu'on lui accorde plus de temps afin de consulter divers intervenants au sujet du climat d'investissement actuel en RDC. Les autres États du Club ont accepté cette demande. Et notre mission à Kinshasa a discuté activement avec les autorités de la RDC pendant une semaine. Le gouvernement de la RDC a fait savoir qu'il s'engageait à prendre des mesures précises afin d'améliorer sa transparence et ses relations avec les investisseurs étrangers. À la suite des diverses consultations qu'il a menées, le Canada a fourni des assurances financières s'appliquant au FMI le mercredi le 25 novembre.
Mais nous avons appris de certaines sources que le Canada exigerait d'abord des éclaircissements sur le dossier des renégociations de contrats miniers, donc KMT qui est une filiale de la compagnie canadienne First Quantum.
Oh, pas du tout. Il y avait beaucoup de désinformation en ville et la réalité c'était que au club de Paris le 18 novembre passé, le Canada se levait pour souligner le fait que ce n'est pas l'aide humanitaire ni l'appui des institutions financières internationales qui vont développer la RDC, la population de base. Il faut avoir des investissements pour développer les emplois dans un pays. Le Canada est un des meilleurs exemples dans le monde. Nous avons commencé avec un pays très riche en ressources naturelles, exactement comme la RDC. Et le Canada a pu développer ses ressources à cause des investissements qui venaient d'ailleurs. Au début, c'était les Anglais, quand le Canada était colonisé. Et après, c'était les Américaines. Et même aujourd'hui, c'est les Chinois qui sont beaucoup investis dans le secteur d'énergie au Canada.
Nous avons entendu dire cet après-midi d'ailleurs que le Club de Paris aurait conclu un accord avec le Congo concernant le rééchelonnement de sa dette, ce qui constituerait un grand pas en avant. Êtes-vous en mesure de le confirmer?
Puisque le Canada est disposé à fournir ses assurances de financement pour l'arrangement proposé, l'ensemble du Club de Paris est maintenant en mesure de procurer de telles assurances aux FMI. Des renseignements plus détaillés seront affichés en temps et lieu sur les sites web du FMI et du Club de Paris si vous voulez avoir encore d'informations.
Vous venez de dire aussi que vous avez trouvé un compromis avec le gouvernement congolais de 25, pour savoir ce qui bloquait parvenir à ces compromis.
En effet, on n'a pas eu un compromis avec le gouvernement. Ce que le Canada cherchait depuis le 18 novembre, c'était des engagements fixes et fermes du gouvernement de la RDC d'améliorer le climat d'affaires ici et d'engager avec les investisseurs déjà ici pour avoir des solutions des problèmes entre les partenaires. Le Canada est un pays où nos règles et nos droits sont basés sur la médiation et on trouve que quand les plaintes entre les gens, les compagnies, les partenaires deviennent trop émotifs, la meilleure façon de gérer ces conflits, c'est de se remettre autour de la table, souvent avec un médiateur pour essayer de trouver des compromis et des communalités, pas des divergences.
Oui, pour terminer, peut-être, est-ce que le Canada envisage de lancer d'autres projets économiques en RDC? Peut-être des projets en cours, hein, déjà qu'il y en a, nous savons qu'il y a KMT, mais à part cela, est-ce que vous envisagez quelque chose d'autre?
Comme représentant du Canada actuellement ici en RDC, je pense jusqu'au moment où on voit le bon progrès ici en RDC en ce qui concerne le climat des affaires, j'aurai la réticence d'encourager d'autres investisseurs canadiens de se lancer ici. Le gouvernement nous a donné des engagements pour améliorer le climat des affaires avec des dates d'échéance et des engagements spécifiques. Et on va voir, on va regarder de proche s'il y a des résultats qui viennent avec les mots. On verra si nous serions prêts d'encourager d'autres investisseurs canadiens de venir ici.
Oui, vous jugez le climat d'affaires du Congo pas très bon, vous n'êtes pas d'ailleurs la seule. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir pour être rassuré, pour encourager beaucoup plus les investisseurs canadiens à venir au Congo?
J'aimerais voir, et j'ai discuté beaucoup avec le gouvernement cette semaine, on aimerait voir les investisseurs qui ont des grands problèmes actuellement avec quelques partenaires, et je parle de n'importe quel investisseur de n'importe quelle nationalité, d'être invités de retourner à la table par leurs partenaires pour essayer de trouver des compromis pour développer le pays. C'est vraiment la base de notre position au Club de Paris. On cherche des façons d'amener le développement à la population de base en RDC. On aimerait éviter avoir la richesse du pays dans les mains de seulement quelques-uns.
Quelque chose à ajouter peut-être pour terminer?
Merci beaucoup pour l'entrevue, madame.
Sigrid Anna Johnson, merci d'avoir répondu aux questions d'économie. Merci surtout de nous avoir reçus. C'est dans vos bureaux que nous avons enregistré cette interview pour les comptes éco d'économie. Pour ceux qui veulent nous réécouter, tapez www.radiocapi.net. Merci à tous et une bonne journée.